L'évangile de saint Matthieu, qui rapporte exactement le même discours que Jésus, que celui qu'on vient d'entendre, l'a sorti d'une précision magnifique. Il dit que face aux oppositions que nous pouvons rencontrer, les oppositions à Jésus, qui peuvent aller jusqu'aux persécutions à cause de mon nom, il dit de façon très claire, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous et qui donne l'image certainement la plus aboutie dans l'Écriture de ce qu'est l'Esprit Saint. La voix, comme la voix de Jean-Baptiste, plus encore que la voix de tous les prophètes, pour chacun de nous, la voix intérieure de notre conscience. Alors on peut toujours effectivement la faire taire, l'obscurcir, essayer de l'enfermer. Mais chacun de nous peut entendre cette voix intérieure. Ce n'est pourtant pas la première image de l'Esprit-Saint, ni dans la Bible, ni dans la représentation la plus courante. Si vous tapez sur un moteur de recherche « image ou signe de l'Esprit-Saint », qu'est-ce qui apparaît? Bien sûr, la colombe. La colombe qui, au début de la Bible, revient à annoncer à Noé le retour de la vie, la fin du déluge. Et que fait Noé? Il fait exactement comme nous. Il offre un sacrifice au Seigneur. Voilà la réponse de l'homme au don de Dieu. Le Seigneur respira l'agréable odeur de ce sacrifice et il fit cette promesse. Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est malade. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse. Mais jamais plus, dit le Seigneur, je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. L'Esprit Saint, c'est la voix de la paix. C'est ça le symbole de la colombe. Il est céleste, il est aérien. Et de fait, dès la première ligne de la Bible, au premier instant de la création, alors que la terre était informe et vide, que les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il faisait le lien entre le ciel et la terre. La deuxième image de l'Esprit-Saint, c'est le feu. Le feu, quand est scellée l'alliance avec Abraham, la première alliance, c'est bien sûr avec Noé, la deuxième alliance avec Abraham, alors qu'au coucher du soleil, un sommeil mystérieux, une torpeur s'était emparée d'Abraham, ainsi qu'une sombre et profonde frayeur. La crainte sacrée de Dieu, un brasier fumant et une torche enflammée passaient entre les animaux du sacrifice. Le feu de l'Esprit-Saint, c'est pourtant avec Moïse, au buisson ardent, que l'Esprit-Saint s'est révélé vraiment comme le feu de l'amour, c'est-à-dire le feu qui ne détruit pas, le grand mystère du buisson ardent, ce feu qui ne consume pas. Après la colombe, après le feu, la troisième image de l'Esprit-Saint, c'est l'huile, l'onction, l'onction de douceur et de gloire. Cette huile, cette onction royale qui est versée à trois reprises sur la tête de David pour le consacrer, lui le bien-aimé de Dieu, comme le roi d'Israël. Et pourtant, elle ne suffira pas pour le garder du péché. Et David n'a pas construit le temple. L'Écriture le dit, il avait trop de sang sur les mains. Ce sera son fils Salomon qui pourtant se laissera séduire par des divinités étrangères, mais que Dieu va épargner à cause de David, son bien-aimé. La quatrième figure de l'Esprit-Saint, c'est le souffle. Le souffle qui donne vie, qui redonnera la vie éternelle à nos corps mortels, puisque c'est ainsi que nous avons été créés. Quand Dieu a modelé l'homme, dit l'Écriture, avec de la poussière tirée du sol, mais nous le comprenons bien, ce récit, le caractère poétique de ce récit, qu'en réalité, il a insufflé son Esprit Saint dans le grand singe que nous étions. Le récit poétique est parfaitement compatible avec ce que nous savons de l'évolution. Mais il nous a donné à chacun d'entre nous une âme immortelle. Cependant, l'Esprit s'est vraiment révélé comme le souffle, en particulier auprès de tous les prophètes, en s'éloignant du fracas de la tempête pour habiter la douceur, le murmure d'une brise légère qui signale au prophète Élie, à la montagne de l'Horeb, la présence de Dieu. Élie se couvre le visage avec son manteau qui est le symbole de son humanité et il sort, il fait comme nous, il vient écouter la voix du Seigneur. Cinquième image, cinquième signe de l'Esprit Saint dans l'Écriture, c'est l'ange. L'ange du Seigneur qui apporta l'annonce à Marie et pour nous la joie du salut. L'ange du Seigneur, dans nos prières à la messe, c'est le nom que nous donnons en réalité à l'Esprit Saint dans le canon romain, la plus ancienne prière eucharistique. Il n'est pas de mention explicite de l'Esprit Saint. En revanche, il est dit, on demande au Seigneur que nos offrandes soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire. Cet ange du Seigneur, l'Esprit Saint, se manifeste ainsi tout au long de la Bible, dans pratiquement tous les livres, jusque dans les Actes des Apôtres, pour délivrer Pierre, pour délivrer Paul, alors qu'ils sont en prison. Esprit de délivrance, de libération. La colombe, le feu, l'huile, le souffle, l'ange. Tant d'images qui s'entrecroisent, puisque la colombe de la paix, dès l'origine, revient avec un rameau d'olivier qui préfigure déjà l'huile sainte. Ou encore dans le livre du prophète Daniel, un des grands prophètes de l'Apocalypse, c'est-à-dire la Révélation, l'Esprit, c'est à la fois le feu qui ne brûle pas, le souffle de fraîcheur et l'ange qui vient accompagner les serviteurs du Seigneur. Vous savez, les trois hommes qui avaient été jetés dans la fournaise par le roi païen Nabucodonosor, il vient voir ce feu et il est stupéfait, il dit à ses conseillers, « Mais est-ce que nous n'avons pas jeté trois hommes dans la fournaise ?»« Assurément, roi !»« Eh bien, moi, je vois quatre hommes qui se promènent librement au milieu du feu, ils sont parfaitement indemnes. Et le quatrième ressemble à un être divin. Et le roi se convertit, il bénit Dieu qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs, ceux qui ont mis leur confiance en lui, qui ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer des divinités, des idolâtries. Le feu qui ne consume pas, c'est un feu purificateur, c'est ce qui vient purifier notre âme, c'est ce que nous demandons encore et sans cesse, avec cette image qu'on a dans la première lettre de Saint-Pierre, pour dire, pour parler de notre âme, comme l'or pur est passé au feu du creuset. Et ce sont en réalité les deux couleurs principales de l'Esprit Saint. L'or de l'huile sainte, de l'onction, dans sa douceur et sa force, dans l'huile des sacrements, voilà cet or. Et le rouge, en réalité, le feu et le sang, le rouge feu du sang du martyr, au nom du Christ. Ce sont les deux couleurs de l'automne. Car ce que les prophètes ont vécu, les sages l'ont enseigné. Voilà ce que dit le livre de Ben Sirac, « Mon fils, mon enfant, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit. Tiens bon. Les adversités, accepte-les. Car de même que l'or est vérifié et prouvé par le feu, les hommes agréables à Dieu le sont au creuset de l'humilité. Dans toutes les épreuves, les maladies, le dénuement, mets ta confiance dans le Seigneur. Il te viendra en aide. Rends tes chemins droits. Mets en lui ton espérance. Ne croyez pas qu'il faille attendre la Pentecôte, le don de la loi, le retour de la vie à Pâques, au printemps. L'automne que nous vivons, c'est tout autant le temps de l'Esprit Saint. Quand les arbres, quand la verdure des forêts se revêt de ses couleurs rouge et or, que tombent les feuilles à l'image de ce que nous devons quitter, oublier, rejeter, purifier pour vivre en Dieu de son esprit.